plume sur RCN, présenté par Mona.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Hommage pour son recueil Entre le lait et l'or, publié aux éditions Kairos, et Olivier Thirion pour son recueil L'espace d'un instant, suivi de Pangée ou l'impossible été, publié également aux éditions Kairos. Avec nous également John Bulit qui nous fera la lecture de sa nouvelle Les ennuis volent en escadrille. Alors bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien tous les trois. Nous allons commencer avec Franck Hommage. Vous voulez bien vous présenter, nous parler un petit peu de vous?
Oui, comme ça, depuis temps blanc.
Éventuellement.
Oui, bah, voilà, moi c'est mon premier recueil.
Oui.
Je suis artiste plasticien, dans la vie, ce qui me nourrit plus. Et puis je me suis mis à écrire, il y a quelques années.
Oui.
De ça. Et...
Bon, c'est vrai que vous êtes connu comme artiste plasticien, vous êtes même bien connu sur la région. Alors, ne soyez pas modeste, c'est
oui,
vrai.
Oui, à cette heure-ci, je suis... oui.
Alors, même si j'ai lu dans votre biographie que vous avez toujours aimé la poésie, pourquoi publier maintenant un recueil de poésie?
Ah bah ça, on se le demande.
Ah
voilà, je tiens un journal, ça prend une forme poétique. Ça me semble essentiel de dire des choses et de les poser à un moment donné, des instantanés, j'écrivais, ça fait longtemps que j'écris sous la forme d'un journal. La forme poétique, je ne sais pas pourquoi, c'est apparu un petit peu, c'est assez récent. C'est plus récent, j'ai toujours écrit des petites choses, mais pas avec cette pas à ce rythme-là en tout cas.
D'accord. Alors je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse et de luminosité dans vos poèmes, et je trouve que ça fait une différence assez saisissante avec vos œuvres picturales.
Totalement, je suis tout à fait d'accord.
Oui.
J'ai un travail plutôt expressionniste, plutôt de représentation. Mon travail de plasticien, il est quand même assez polymorphe, hein, mais effectivement plus dans une logique de représentation humaine et un petit peu écorchée, souvent. C'est un autre pan, justement, que je n'ai pas su exprimer. Autrement, donc c'est la raison pour laquelle je l'écris sous forme de poésie, quoi. Et c'est un choix effectivement positif. C'est un choix que je veux plutôt éclairer, pas la partie sombre. Mais c'est vrai que la partie sombre, elle est dans mon travail plus souvent.
Oui. Alors il y a beaucoup de tendresse dans vos poèmes, hein, effectivement, et vous avez écrit aussi de magnifiques poèmes d'amour. Alors vous voulez bien nous lire la lettre AD, s'il vous plaît?
Ah bah je peux vous lire la lettre AD, oui. J'ai réglé quelques comptes comme ça. Non mais c'est, voilà.
De
c'est...
manière amoureuse.
Alors. Oui.
C'est un faux méchant.
Merci Olivier. Mais il faut pas trop que ça se sache parce que j'ai une réputation quand même à sauvegarder. Donc, lettre AD. Mon compagnon, mon adorable, mon enfant, celle-là restée longtemps au nid douillet de son passé, qui trouve toujours préférable de donner aux autres pourtant, je te dois tant. Une douceur inaltérable se camoufle sous tes dehors, à croire que l'autre est retors mettant à mal ton cœur friable. Je sais toute ta générosité et la difficulté de vivre, les rêves qu'il nous faut poursuivre au milieu de cette humanité, violente, ignorante, visant la surface des choses et d'aucuns ne savent. En toi cette manne vivace, de toi cette beauté suave. J'ai su pourtant voir en toi l'indolente, et le sourire et la douceur, immense, cachés sous le tissu de ton cœur, toi, mon aimante, ma sœur. Toi qui, comme une étoile filante que j'eus l'audace de saisir, a fait le pari fou de choisir de partager mon existence, mes joies et mes humeurs insolentes, ou ma trop instable présence. Parfois, toi, ma trop discrète atalante, animée de persévérance, toi qui as su me consoler, m'apprivoiser, aux nuits d'orage, aux jours volés, toi qui m'as laissé te séduire, te conduire, je n'aurai jamais assez la matière, je n'aurai pas assez de vie pour m'acquitter de cette envie de te plaire.
Merci, c'est un magnifique poème.
C'est superbe.
C'est superbe, hein. Toutes les femmes rêvent d'avoir de s'entendre dire un poème comme ça.
Déclaration d'amour.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est une déclaration d'amour. Oui. Bon, il y en a quelques-unes.
Oui, il y en a quelques-unes.
Quelques amours ou quelques-unes?
Les deux.
Alors, dans votre recueil, Franck, vous avez inséré quelques images toutes issues de votre travail personnel. Alors, comment avez-vous choisi ces reproductions? C'était facile?
Oui, c'était très facile. J'ai quand même un stock d'images. Pour avoir fait pas mal de choses. Oui, c'était assez... oui, quand même. C'était, parce qu'il y a des dessins aussi. Ce ne sont pas des choses vraiment de mon travail, mais c'est des choses de... Comment dire, je dessine beaucoup, par ailleurs, en marge du reste. Et ou de photographie. Il y a des photographies touristiques, hein, dedans. Bon. Mmh. C'était pas trop difficile. J'ai même un petit peu freiné. L'éditeur voulait que je mette plus d'images, mais moi c'était le texte en fait. Oui. Donc
les textes se suffisent à eux-mêmes souvent.
Je
tenais
pas
souvent,
illustrer. Voilà, c'était assez un choix. Donc c'est resté assez raisonnable dans le.
Mais oui. Alors, il faut attendre la page 91 et le poème « Une croix sur le mur » pour comprendre le titre de votre recueil « Entre le lait et l'or ». Alors, pourquoi ce titre?
Oui, c'est une couleur, en fait.
Oui, c'est ça.
Pourquoi le titre? Déjà, c'était compliqué de choisir un titre. Hein. Il m'a demandé de choisir un titre, j'avais pas de titre. Je suis pas très calé en titre. En général, les titres, ils sont assez simples, la plupart du temps, enfin le plus que je peux. Donc j'ai choisi une couleur, en fait.
Oui.
Une couleur sur quelque chose qui est posé chez moi, sur un mur. Sur lequel j'écris un poème. Donc là, c'est un poème, effectivement, sur un travail qui est accroché, quoi, sur un mur.
Mmh. Mais on sent chez vous, comment dire, dans vos poèmes, on sent le dessinateur, on sent le peintre. Parce que je trouve que ça on le voit.
Je parle pas mal de lumière. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est une presque maladif, même. Je m'en suis aperçu, même, a posteriori, quelque part. Je parle beaucoup de lumière, de couleurs, effectivement, bah oui, mais c'est quand même un petit peu un domaine dans lequel j'ai longtemps évolué, donc voilà, et puis en même temps tout se fait sous la lumière. J'écris le plus souvent le matin, je suis à mon bureau, j'ai un paysage magnifique sous mes fenêtres, j'ai cette chance. Et c'est le plus souvent à ce moment-là que j'écris et ça vient, la lumière vient avec, quoi.
Mmh. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que vous nous lisiez un poème, un autre, un norvais.
Ok. Alors, voilà. Alors, un norvais. Sous l'herbe mouillée, un norvais. En son nid douillet dorloté dans l'ombre muette, lisse et fragile esperluette, espère en ses rêves dorés, paisiblement y demeurer. Il dort et l'au-delà rosé camoufle son corps argenté par des reflets apparentés. Il a élégamment déposé sa cédille dans la moiteur de quelques serres supposées. Parfois, comme lui, j'aimerais assez m'abriter à cet équateur du sol chaud et y paraisser, m'alanguir sous les herbes vertes, loin de tous les charivaris, au pays de mes rêveries, gisir là comme une chose inerte.
Alors, comme nos auditeurs l'ont certainement remarqué, vous utilisez la forme classique du poème avec des rimes. Alors, pourquoi ce choix ?
Pas toujours.
Pas toujours, j'ai dit en général.
Pas toujours, mais il y a toujours effectivement une histoire de rythme et une histoire de musique, effectivement. De tempo, de musique, de rythme. Il y a quelque chose de musical, effectivement, dans la poésie à laquelle je tiens. Ça se lit à voix haute.
Oui.
Alors c'est un peu plus compliqué parce que beaucoup moins, enfin, selon, là c'est des formes un peu, oui, classiques, mais c'est vraiment une histoire de résonance, je sais pas quoi vous dire.
Alors
je cherche pas, je n'ai absolument aucune prétention d'aucune sorte à réécrire, à inventer une forme langagière, quelle qu'elle soit. Bon, ceci dit, à côté de ça, j'ai pu lire beaucoup d'ouvrages, beaucoup de poésie, chez nombreux auteurs qui ont des formes diverses et variées, un René Char, un Saint John Perse, etc. On Varg Haftig. Que j'ai eu le bonheur de rencontrer, ont des formes de langage évidemment propres. Je cherche à traduire une émotion et effectivement elle s'organise de cette manière-là. Mais je veux vous assurer d'une chose, je passe pas tellement de temps que ça à faire un travail de remanipulation dans l'ombre. Ça m'arrive de retailler, évidemment, de chercher, mais en général, le plus souvent, ce sont des choses qui arrivent assez naturellement. Au moins les débuts de poèmes arrivent naturellement. Donc voilà, et elles se construisent de cette manière-là.
D'accord. Parce que j'allais vous demander justement si ça vous demandait du travail, un travail fourni pour ça trouver juste mot, le bon...
Ah bah je cherche le quand même, je vais chercher aussi des mots, parce que moi je me sens un peu pauvre finalement en vocabulaire, malgré que je sois un lecteur quand même un peu sérieux. Il me manque toujours le vocabulaire, quoi. Donc effectivement il m'arrive d'aller chercher des mots. Et surtout de les employer. Mais c'est pas tellement, les mots sont pas juste en soi, c'est du matériau, c'est où vous les placez, dans quelles conditions qui vont révéler quelque chose, je dirais même peut-être qui ne sont pas a priori dans le corpus, dans la définition un peu basique du mot, quoi. Donc oui, c'est des matériaux.
Oui, oui. Et donc, il y a des repentirs, comme...
Ah oui, il y a des repentirs, oui. Ah bah oui. Ça, je suis un roi du repentir, moi. Olivier avait écrit dans un poème, en parlant du poème, que c'était... Il y avait plein d'imperfections.
Je parlais pas de toi. Hein.
Non, mais je sais bien que tu parlais pas de moi. Mais c'est très juste. C'est très juste. Il y a plein d'imperfections mais ces imperfections-là, elles peuvent être au détriment. Mais en même temps, elles sont un petit peu l'âme de ce qui va pouvoir générer une émotion.
Oui. Ouais, tu vas retrouver ça aussi dans la peinture, je suppose, et dans la sculpture.
Oui,
c'est l'imperfection.
Oui, bah bien sûr. Oui, non, en peinture, je la cultive. L'imperfection, c'est autre chose. C'est encore une autre histoire.
Alors, comment vous vient l'inspiration ? C'est quoi ? C'est une image, un son
C'est quelque chose que j'ai à dire ou quelque chose qui me vient. On pense, on marche, on se balade, on va d'un endroit à l'autre. Il y a des choses qui se mettent en route, qui se mettent en place dans notre tête. Alors il y a différentes façons de penser. Ça peut être une pensée, informelle, mais ça peut aussi prendre forme. On peut lui donner forme aussi en pensant. Ce sont des choses à dire. C'est un petit peu, voilà. Vous me posiez la question. Tu me posais la question du pourquoi avoir publié recueil. Ce recueil, ce sont des choses que j'avais à dire et qu'à un moment donné, il faut que je pose. Alors, je pose des textes aussi dans mes peintures, dans mes travaux souvent. Mais c'est encore une autre façon, quoi. Mmh. Mais c'est voilà, il y a une nécessité de mettre ça quelque part, quoi.
D'accord.
Sinon, c'est le reste, ça part dans les courants d'air. Il y en a beaucoup aussi, hein.
Alors, nous revenons après une pause musicale. Et puis, je vais choisir « Femme, je vous aime », bien sûr, de Julia Clerc. Je ne peux pas faire autrement avec vous deux.
Ah, je connais quelqu'un.
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Si drôle, sur un coin d'épaule, oh oui, si drôle, regard qui frôle, quelquefois si seul. Si seul, oui, mais si seul. Ah,
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Franck Hommage, venu nous présenter son recueil « Entre le lait et l'or » publié aux éditions Kairos, et Olivier Thirion, venu lui pour nous présenter son recueil « L'espace d'un instant suivi de Pangée où l'impossible était » publié également aux éditions Kairos. Alors avant de parler de l'ouvrage d'Olivier Thirion, John Bulit va nous faire la lecture de sa nouvelle « Les ennuis volent en escadrille ». On t'écoute, John.
Oui, alors vous connaissez ces journées où on dit qu'on se lève du pied gauche, où rien ne va, hein, et justement c'est le thème de cette nouvelle. Les ennuis volent en escadrille. Alors, suite à deux décès dans des silos à grains de l'usine où je travaille, et par crainte de nouveaux accidents, se tenir à la rampe qui monte à mon bureau devient obligatoire. Car, m'a-t-on dit, il y a risque de chute dans les escaliers. Escaliers que j'emprunte pourtant depuis 20 ans sans incident. Mais vérification, affichette, rappel à l'ordre de ma chef sont désormais mon lot quotidien. Alors, sous peine d'être sanctionné, je suis obligé de m'y cramponner fermement, même quand j'ai mes dossiers, ma sacoche, mon ordinateur dans les mains, et qu'il faudrait donc me greffer une main de plus. Oh, une belle main supplémentaire, hein, habile, qui assurerait, c'est sûr, mon équilibre instable depuis toujours dans ces escaliers, et surtout étoufferait mon côté rebelle à l'autorité. Après plusieurs remontrances, admonestations et menaces de sanctions financières en ce début d'année, et auxquelles j'ai échappé jusqu'à présent de justesse, voilà qu'avec l'épidémie de Covid, il n'est maintenant absolument plus question depuis ce matin, 8h12 précise, de toucher, voire de frôler même, la dite rampe en question. Et en effet, notre chef nous a assuré cette fois-ci que de nombreux virus hyper dangereux et responsables de transmettre la redoutable maladie contagieuse du Covid-19 y proliféraient, ainsi que des bactéries en grand nombre, hein, sans qu'on les soupçonnait jusqu'à présent. Diantre. Par contre, toujours par ma chef bien-aimée, je suis chargé dorénavant de désinfecter soigneusement à l'alcool à 90 cette maudite rampe matin, midi, soir, après les passages de mes collègues de bureau. Le retournement de situation est total. S'approcher d'elle nous vaut à présent les mêmes ennuis que précédemment quand on s'y cramponnait avec vigueur. Sanctions financières, elles restent. Hein. Mais les ordres sont les ordres. À quoi donc peut-on se fier en s'étant troublé, me dis-je. En rentrant à la maison, une mauvaise et dramatique nouvelle m'attendait, ce même jour, sur mon répondeur. Ma sœur aînée, Jocelyne, m'apprenait que ma mère de 94 ans était décédée dans la nuit à son EHPAD. Nous étions tous préparés depuis très longtemps, mais la rapidité de sa mort, telle une petite ampoule éclatée soudainement, me prit au dépourvu. Le temps passe très vite, pensais-je. Hier, j'étais encore adolescent, avec mes rêves de futur qui brillaient dans les yeux, mes envies de m'éloigner de mes parents trop protecteurs, dont il fallait à tout prix se séparer. Aujourd'hui, c'est quatre planches, ma mère dedans. Pif, paf, c'est fini. Ridicule. Ridicule et attristant. 3 jours plus tard, l'enterrement-crémation de notre mère eut lieu et se déroula, enfin j'en eus l'impression, à la vitesse de l'éclair. L'idée saugrenue que les brûleurs avaient été changés spécialement le matin même pour sa crémation me fleura l'esprit, tant le cérémonial me parut rapide. Peut-être que ce que tu as ressenti, c'est un trou dans l'espace-temps, me confia Sophie, ma sœur cadette, quand je lui en parlais. Probablement l'effet du stress ou du choc émotionnel qui fait tout accélérer. Moi aussi, me dit-elle, je suis dans le même état. Tu vois, j'arrive même pas à pleurer. Le temps s'est raccourci pour notre famille maintenant. Nous sommes tous vieux. Les semaines se transforment en jours et les jours en minutes. Du sable. Voilà ce que nous sommes devenus, du sable qui s'écoule entre les doigts. Rien que de parler de doigts et de mains me revint l'histoire toute fraîche de la rampe maudite. Non, décidément, rien n'est décidément simple dans la vie, tout est compliqué. Entre cette affaire et le décès de maman, à peine quelques jours s'étaient écoulés, mais j'avais eu l'impression que c'était la même journée de deuil et d'ennui qui n'en finissait plus.
Musicien amateur de la famille, j'avais été chargé par mes frères et sœurs de faire le choix des musiques cérémoniales. Et j'avais demandé pour l'enterrement de notre mère le célèbre Requiem numéro 2 de Dimitri Chostakovitch, pensant que c'était ce qui conviendrait le mieux. Oui, quelque chose d'assez solennel, grandiose pour une crémation, quoi. Mais quand le croque-mort appuya sur le lecteur de CD, grossière erreur de manipulation, ce fut la musique de la Panthère Rose que tout le monde entendit. De nombreux rires étouffés retentirent dans le crématorium, et les regards étonnés furent échangés dans l'assistance, mais bien qu'interloqués, les membres de nos familles restèrent dignes. Le croque-mort, visage rouge écarlate, se précipita vers le lecteur de CD pour changer le disque malencontreusement interverti et se confondit en excuses. « Oh, allez, ce show must go on, dit-on, et heureusement, l'enterrement se poursuivit ensuite, sans de nouvelles péripéties extravagantes. » Chacun écrasa une larme au moment de dire adieu à maman, après un discours émouvant de mon frère Paul, et nous essayâmes d'oublier nos peines peu après, dans un restaurant voisin. À peine rentré à l'intérieur, j'avais perçu une bonne odeur de soupe aux poireaux et petits lardons grillés qui m'avaient flatté les narines. Ah, je me voyais déjà autour de ce bon potage de légumes réconfortant, quand le patron prononça les deux mots magiques de l'époque. « Masque et passe, monsieur, dame, s'il vous plaît. » Zut, les masques, les passes sanitaires, oh, ça pristoche. Perdus dans nos soucis, les masques, nous les avions pour la plupart oubliés. Quant aux passes sanitaires, sur une dizaine de personnes présentes, un ou deux les avaient oubliés, un ou deux les avaient, mais pas sur eux, et un ou deux les avaient, mais leur téléphone n'était pas chargé. Donc pas visible pour un contrôle, nous n'étions en fait que trois en situation normale. Ah, le sort s'acharnait sur nous. Le patron, se montrant inflexible, après hésitation, nous décidâmes de revenir pour discuter tous au crématorium, où le croque-mort était encore présent. Pour se faire pardonner sa bévue musicale, il nous proposa de partager tous ensemble quatre énormes sandwichs jambon, beurre, fromage, ainsi qu'un peu de coca zéro qu'il avait mis de côté pour lui et ses collègues. Ah, au bout de quelques instants, l'atmosphère se détendant, il sortit également une bouteille de Mirabelle qui planquait sous les brûleurs et nous en servit une rasade dans des petits verres. Oh. Assis l'un à côté de l'autre sur une rangée de cercueils en attente d'une future crémation, tous les membres de la famille entamèrent une discussion incongrue sur les avantages et les inconvénients des différents masques mis sur le marché. Ma sœur Jocelyne, d'habitude plutôt mutique mais très prolixe en ce jour, sortit de sa réserve. Elle vanta ceux de couleur kaki qui lui allaient si bien avec son teint de blonde. Et elle prétendit avec assurance que certains masques de sa couleur préférée avaient des mailles en point de croix et qui seraient donc assez fins pour éviter les postillons d'un volume de 20 microns. « Je l'ai lu dans Que choisir » dit-elle. Personne n'osa la contredire. Mais moi je lui dis « Face à la science, on ne peut que s'incliner. » J'ajoutais malicieusement qu'il fallait bien les laver, par contre, avant usage, avec de l'assouplissant laine de marque Soupline, de préférence tout couleur, et de couleur bleue, de préférence. Et que cela renforcerait, c'est sûr, les vertus sanitaires de ces masques efficaces. Ah, je l'avais lu dans Que choisir, moi aussi. Mon autre sœur esquissa un sourire, lasse. Quant à mon frère Paul, il pouffa de rire et demanda si l'on pouvait aussi chanter avec ce type de masque en toute sécurité pour l'entourage, après avoir ingurgité 4 ou 5 Mirabelles comme aujourd'hui. Jocelyne se déclara inculte sur le sujet et retomba dans son mutisme. À la fin de cette discussion surréaliste, mon autre sœur Sophie voulut se brancher sur une prise électrique pour recharger son téléphone, mais malencontreusement provoqua un court-circuit qui nous plongea tous dans l'obscurité. Oh, à tâtons, nous quittâmes le crématorium, se tenant par les épaules. Mon frère Paul, un peu éméché, entamant un tonitruant « Ah, ah, à la queue le, à la queue !» pendant que Jocelyne, claustrophobe et terrifiée, hurlait à plein poumon « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir !» Épuisés nerveusement, nous rentrâmes chacun et chacune dans nos maisons respectives, maudissant ce jour où rien ne tournait dans le bon sens. Allez, brûler un cierge ou deux, tenir bon jusqu'au jour prochain. Oui, du repos, du repos. Adieu, adieu à toi, maman. Adieu, maudite trempe de l'usine. Adieu. C'est vrai qu'il y a des jours où un peu de calme et de sérénité ferait vraiment, vraiment du bien.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors, nous sommes toujours avec Franck Hommage, venu nous présenter son recueil Entre le lait et l'or, publié aux éditions Kairos, et Olivier Thirion, venu lui pour nous présenter son recueil L'espace d'un instant suivi de Pangée ou l'impossible été, publié également aux éditions Kairos. Alors Olivier, L'espace d'un instant est votre quatrième recueil de poésie publié. Pourtant, à lire la quatrième de couverture, vous ne vous définissez pas comme un poète. Expliquez-nous.
Non, c'est une arnaque totale. je pense que la poésie, c'est quelque chose qui habite chacun d'entre nous. La poésie, pour moi, c'est un état. Moi, quand j'écris dans un état poétique. Et ce que j'espère, c'est que les gens qui lisent rentrent dans cet état. C'est pas une science, c'est pas une forme particulière. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire rentrer en poésie. C'est un peu... Tout habite la poésie. Tout habite le monde. C'est un état et c'est un langage qui décrit le monde. Donc, on n'est pas poète. C'est le lecteur qui est poète.
D'accord.
C'est un peu comme... je reprends ce que disait Duchamp.
Duchamp,
quoi.
Oui, c'est ça.
La poésie, elle est dans la tête du lecteur. Si on rentre dans un état de poésie, c'est qu'on est réceptif et qu'on a ouvert une porte.
D'accord. Et comment on sait qu'on est dans cet état de poésie ?
Quand on rentre.
c'est un peu comme une... Moi les poètes, enfin, les textes que j'écris, ou les petits textes que j'écris, sont comme des fenêtres. Moi, j'invite les gens à ouvrir la fenêtre et à passer la tête à l'intérieur de la fenêtre et de regarder ce qu'il y a derrière. C'est un peu comme la caverne de Platon, quoi. Tout est derrière. Mmh. Et... je fais souvent le parallèle avec les mathématiques. Pour moi, les mathématiques, c'est une forme de poésie aussi, parce que c'est une façon de décrire le monde. Mmh. Il n'y a pas besoin de clé, même s'il faut une technique. C'est plus simple un peu de rentrer dans la poésie. Mais voilà quoi. Voilà pourquoi j'arrive pas je me dis même, je me méfie des gens qui s'autoproclament ou qui se proclament poète. Mmh. Quelqu'un qui arriverait qui disait « je suis un poète », ça m'interpelle.
Alors pour nos éditeurs qui ne le sauraient pas, vous voulez bien nous expliquer ce qu'est la Pangée ?
La Pangée, c'est le continent originel. Le continent originel qui s'est fragmenté et qui donne ce monde complètement éclaté dans lequel on vit. Mmh. Le fantasme, c'est de revenir à l'unité, à l'unicité du monde.
D'accord. Bon. Alors autant pour la dérive des continents, quoi, c'est ça ?
Oui, c'est ça, mais on peut penser qu'à terme, à force de tourner autour de la Terre, les continents peuvent se rassembler à nouveau. C'est un peu ce...
Oui, il y a du travail, hein ?
Oui, oui. Oui, on se comprend. Oui.
Dans votre recueil, vous mélangez poèmes et textes poétiques. Alors c'est un choix déterminé ou bien un choix qui s'impose à vous au fur et à mesure ?
Tout s'impose à moi au fur et à mesure.
Tout.
Je n'ai pas de... Enfin, dans l'écriture.
Dans l'écriture, oui, bien sûr.
Je ne suis pas... Je n'ai pas un plan détaillé au départ, quoi.
D'accord.
Mais les titres l'imposent. Je veux dire, l'espace d'un instant, pour moi, c'est vraiment le... On a de la chance de parler français, parce que j'imagine qu'il y a d'autres langues où la poésie serait beaucoup plus difficile. Moi, j'adore la polysémie de la langue française. Mmh. Les allitérations, les mots qui ont des sens différents et qui se fredonnent presque de manière parallèle, quoi. Mmh. J'adore ça. Dans l'espace d'un instant, ça m'ouvre des perspectives incroyables. Qu'est-ce que ça veut dire, l'espace d'un instant ? Ça n'existe pas. Il peut pas y avoir d'espace dans le temps. Donc c'est un point où les choses se croisent. Elle est là, la poésie. Mmh. Elle est là, à mon sens.
Alors, vous voulez bien nous partager un de vos poèmes, Un paradis, page 48-49, merci.
Ils sont rares. Ah, c'est un paradis.
Oui.
Alors, attendez. Hop. Un paradis. C'était un paradis pour sûr. Sans amour et sans haine. Sans patrie et sans chaîne. Sans endroit pour dormir, sans regard des autres. Sans fenêtre pour souffrir. Sans étoiles dans les yeux. Sans rencontre, sans mur. Un paradis de vide et d'absence. C'était un paradis pour sûr. Une étroite vallée sans eau et sans verdure, sans même une sépulture, sans fontaine et sans voile, sans gamelle sur les plages, sans feu de cheminée, sans machine héroïque, sans idole et sans ventre, sans désordre et sans gloire, un paradis pour rien. C'était un paradis pour sûr, sans ménage et sans charme, sans principe et sans loi, sans pouvoir et sans honte, sans ponctuation ni soleil, sans conforme, sans arbres, sans animaux, sans cirque, sans balises, sans feu rouge, sans révolte, sans idée, sans rien qui nous attache, sans rien qui nous arrache, un paradis de sommeil et d'oubli. C'était un paradis, m'a-t-on dit, d'où l'homme était banni, où rien d'avant le temps n'existait pour durer, ni espace, ni horizon, ni même énergie, où la pensée, sortie de nulle part, régissait la mélancolie ultime, un paradis d'esprit abandonné de Dieu, un paradis écrit par un sage dépravé, assis nulle part ailleurs, partout. Un paradis d'avant ou bien d'après la mort. Un pur moment de littérature.
Alors, votre recueil est illustré par des reproductions des peintures de Sylvie Coupé-Touron. Oui. Alors, comment vous avez procédé? Ce sont ces tableaux qui vous ont inspiré ou
C'est une vieille complicité avec Sylvie. Hein. Mmh. On se connaît depuis très longtemps. On a déjà travaillé ensemble sur un recueil où on avait travaillé justement en parallèle, c'est-à-dire que j'écrivais pendant qu'elle peignait. Et là, il n'y a pas de lien, ce ne sont pas des illustrations. C'est simplement, je me reconnais dans son univers, donc j'ai tenu, par amitié aussi, par complicité, à ce qu'elle soit dans ce recueil. Mais avec un statut qui est pas d'illustratrice. Un statut de confrontation de deux univers.
Rencontre.
Une rencontre.
Mmh. Alors, comme Franck, la femme vous inspire. Alors, j'aime beaucoup la dédicace de votre livre, « À mon amour aux yeux si verts qui m'a appris ce qu'était un fou rire mmh. ». Ou encore cette phrase unique sur une page blanche, « Tes yeux sont des étoiles qui ensoleillent ma nuit ». Alors, il faut avoir beaucoup d'amour et un petit côté romantique pour célébrer comme ça. Ça
oui, puis avoir la pratique de nuit très courte.
Oh, parce que c'est un peu plus terre à terre, là, d'accord. On descend, là.
Mais non, ça se suffit à soi-même. Une dédicace d'amour, oui.
Oui, oui, bien sûr.
Bien sûr.
Oui.
Mais bon, d'ailleurs, la phrase vient juste au début du recueil, juste après la dédicace.
Oui, oui, c'est vrai.
Alors, personne se reconnaîtra.
J'imagine. Ou alors, c'est triste. Alors, j'aimerais maintenant que vous nous lisiez le poème « L'accent du monde », page 55.
Hop. Je l'ai. Pardon. Dans cet ailleurs, personne n'existe de manière séparée. De chaque côté du mur, on s'apostrophe, on s'interpelle. Dans cet ailleurs, personne ne se cache, personne ne se dévoile pour ce qu'il n'est pas. On ne raconte pas nos rêves, on hurle nos cauchemars. L'accent du monde est suranné. Le tact est insolent. La naïveté absolue. L'illusion féroce. L'amour une fleur rare. Au fond des bars, rien à voir. Parfois je m'y replie. Souvent je m'y remplis.
Merci. Alors pourquoi écrire de la poésie? Est-ce que la poésie console ou est-ce un cri? Franck, vous répondez?
Est-ce que la poésie console ou est-ce un cri? Alors on va
plutôt
un cri à ce moment-là.
Un cri.
La poésie console. Je ne sais pas si elle console.
Moi je trouve qu'il y en a certains qui consolent.
Ah ça dépend. Ça dépend qui. Non mais je parle. Ça. Comment dire.
Pour l'auteur.
À la lire, oui.
Oui,
oui voilà, c'est oui. Ça, c'est une histoire. Oui. Ça dépend où on
et
est situé.
Et à l'auteur, non, ça ne console pas non plus.
Pas forcément.
Pas forcément.
Je crois pas,
non.
Non, je ne pense pas.
Donc c'est plutôt un cri pour vous. Et Olivier?
Ni l'un ni l'autre.
ni l'un ni l'autre.
Non, c'est pas un cri, c'est quelque chose qui préexiste, donc c'est quelque chose qu'on pose, qu'on marque, mais qui on l'a déjà dedans. Donc
oui, mais on l'exprime.
Oui, on l'exprime, mais on n'est pas obligé de le crier.
Ah oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est vrai que c'est assez violent. Mais ça peut être un cri aussi.
Oui,
hein.
Oui, c'est ça.
Un cri qui te vient de l'intérieur, comme je disais tout à l'heure.
Ça peut être.
Alors, est-ce qu'il faut du courage pour publier ses poèmes, dans le sens où le poème est plus intime qu'un roman ? On ne peut pas se cacher derrière un personnage ?
C'est beaucoup plus facile.
C'est beaucoup plus facile.
Moi, je trouve, hein. Enfin, pour moi, c'est plus, j'ai plus facile à écrire des textes poétiques que d'écrire une nouvelle. Non, ça ne demande pas un courage particulier.
Hein?
Moi, je pense que on s'expose, bien évidemment.
Bah oui, automatiquement.
Mais comme quand à chaque fois qu'on fait quelque chose de...
Une œuvre de création.
D'un peu, oui, surtout quand c'est quelque chose de d'intime, ça dépend ce qu'on appelle, ça dépend ce qu'on met derrière le mot création après aussi, hein. Mais à partir du moment où c'est effectivement des choses vécues intimes de soi, bien sûr, on s'expose.
Alors, est-ce que la poésie, comme les autres genres littéraires, le miroir de la société, ça le montre?
Je peux
oui,
répondre.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est un grand débat dans l'art en général. Ça l'est ou ça ne l'est pas. Mais par contre, je ne vois pas en quoi ça aurait à l'être. Ça peut refléter effectivement. Ça peut être effectivement un miroir de la société. Après. Mais avec quelle lecture, dans quel temps, dans quelle distance, avec quel recul, c'est difficile de répondre à ça. Ce sont des aventures individuelles. Maintenant, je suis assez d'accord avec Olivier quand il disait la poésie, c'est un état. Pour moi, c'est encore quelque chose qui a à faire... ce qui n'est pas le cas de tous les domaines, qui a affaire avec qui est du monde du sensible. Moi, personnellement, je tiens énormément à cette dimension du sensible. Ça peut paraître évident, ça ne l'est pas forcément. Hein. Le sensible, en tant que quelque chose qui est séparé de l'intellectuel, de l'esprit, etc., même s'il y a forcément une connexion par définition. Donc, je me suis déjà perdu, je parle tellement que...
On parlait de miroir de la société,
voilà.
Ou pas.
Et donc, je me perds dans les méandres du miroir. Donc, miroir de la société, je sais pas, mais c'est le reflet de choses humaines, donc forcément, évidemment, ça reflète peut-être quelque chose à plus grande échelle. Mais de la société, c'est compliqué de dire de la société. De quelle société ?
Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Ce que ça reflète, c'est les angoisses ce qu'il y a derrière la poésie traverse les sociétés, quelles qu'elles soient. Hein, l'angoisse du temps, de la mort, c'est des choses, j'allais dire des impermanents, mais...
C'est des sujets récurrents,
c'est des
sujets
qui existent au travers de plein de sociétés. Ce qui pourrait, à la limite, refléter la société, c'est le vocabulaire qu'on emploie, la forme de la phrase qui peut être, qu'on utilise des fois à dessein pour faire passer quelque chose, mais qui peuvent être... dit de manière ironique ou avec un petit peu de distance, c'est peut-être à ça qu'on pourrait voir un reflet de la société.
Et puis les mots, comme tu dis, effectivement, l'Académie française régulièrement ajoute des nouveaux mots.
Et on enlève,
oui. Donc ça, c'est aussi ce qu'on écrit en 1920. Est-ce qu'on écrit la même chose en 2020? Je ne sais pas.
Sans doute.
Les mêmes thèmes, sûrement.
Les mots sont intéressants à partir du moment où ils sont, où on peut les employer, les partager, les comprendre. Il y a quand même un commun qui fait l'intérêt de la chose, je dirais.
Mmh. Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'une poésie, quelle que soit l'époque, si elle me met dans un état poétique, elle est réussie, je veux dire. Il y a des choses qui nous paraîtront complètement fades, sans perspective et qui sont modernes. Et puis, je veux dire, n'importe quel poème de Rimbaud va nous mettre dans un état...
Moi, je suis assez d'accord. Comment dire, on met beaucoup... On est dans un monde où on met beaucoup, effectivement, la modernité en avant. Mais je suis assez d'accord avec Olivier, quelque part. Pour moi, il y a des... Mais comme dans tout... Je pense qu'il y a des bons et des mauvais peintres. Je pense qu'il y a de la bonne poésie et de la moins bonne poésie. Et je fais absolument aucun distinguo entre un poème de Louise Labbé et un poème d'Éluard ou un poème de Ex-Braya. Je veux dire, ça se reçoit. C'est, même si l'époque est totalement différente, c'est la teneur en humanité qui a d'intéressant dans le poème. C'est pas sa teneur en société. C'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Mm-hmm. Alors là, je crois que je vais vous faire.
C'est intéressant la teneur en humanité. Ça se calcule en pourcentage.
Ouais, on peut maintenant, tu sais, à cette heure-ci, il y a des 70 degrés.
Je reviens justement sur ce que tu disais, Olivier, tout à l'heure, à propos qu'on a la chance d'avoir une langue, la langue française, qui est très détaillée avec plein de mots différents, qui sont subtils, etc. Moi qui suis aussi musicien, je vois que par exemple l'anglais est une langue qui sonne très bien et qu'on utilise beaucoup pour la chanson et qui a pris un peu la primauté. Alors que là, on a encore, avec la langue française, c'est très différent quand même de la subtilité qu'il n'y a pas dans la langue anglaise et américaine.
Oui, la langue anglaise est très précise, quoi.
Elle est très musicale,
elle est très
c'est vrai.
Oui, mais en même temps, elle est très précise.
Très sonore.
Il n'y a pas d'ambiguïté dans la langue.
Tu parlais de la langue française tout à l'heure, c'est vrai que c'est une langue extraordinaire, notamment pour la poésie, parce qu'il y a plein d'entrées.
Ben oui.
Et c'est effectivement une langue et en plus la complexité, la différence énorme qu'il peut y avoir entre l'écrit et l'oralité de la langue. Tu parlais de la langue anglaise, elle est écrite orale, c'est la même. Elle s'entend de la même manière.
Oui, c'est pareil.
La langue française, tu parlais d'élision, tu parlais je veux dire, il y a un tas de choses à l'intérieur qui sont quand même assez fantastiques. Alors, qui la rendent complexe, c'est une langue complexe. Mais c'est cette complexité qui amène un tas d'angles, d'ouverture, en fait, dans la pièce de la poésie, quoi, dans la chambre secrète de la poésie.
Pour un peintre, il y a une palette.
Oui,
il y a une palette immense, quoi.
Absolument. Ouais.
Alors là, je vais vous faire hurler. Vous êtes des créateurs. Qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT ?
De
ChatGPT.
Le plus grand mal, personnellement.
Oui, moi aussi.
Mais
quoi ?
ChatGPT. C'est l'ingénierie. C'est les wagons d'ingénierie d'Assistana qui résolvent tout. Mais c'est un assistant robotique, ChatGPT.
Bien sûr. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on perde un peu de notre humanité, justement, dont on parlait
tout à l'heure ? Je pense qu'on en perd. Dans ce paradigme-là, oui, moi, je pense qu'on en perd. Mais peut-être qu'on en fera le tour. Hein. C'est toujours la course à la montre en or. Je veux dire, il y a ses limites aussi. Il y a d'autres limites, d'autres types de limites, quoi. On a tendance à se mécaniser quand même en pensée sur le monde de façon un petit peu générale, hein. Une façon très 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 bizarre, quoi, d'hyper pragmatisme comme ça en tout. C'est une technologie. Si elle est utile, c'est très bien. Si elle est parfaitement inutile, c'est très con. Mais j'ai peur que ce soit souvent la deuxième formule.
Oui, je pense aussi.
Qui parle pas, mais
je partage. Je partage.
Alors justement, parler de la richesse de la langue française, justement, avec ce genre de mécanisme, parce que c'est un mécanisme, en fait, on va y perdre beaucoup.
C'est une mémoire ajoutée, c'est numérique, c'est une mémoire, c'est de la quantité introduite.
Est-ce que
le quantitatif... peut être en concurrence avec le qualitatif, je crois pas, moi. On fait ça, on dit ça en ce moment. Mmh. On parle de ça. On met sur le même plan le quantitatif et le qualitatif. Mmh. Et je vois pas très bien le.
J'ai l'impression qu'on n'ouvrira pas beaucoup de fenêtres avec des choses qui s'auto-alimentent comme ChatGPT, quoi.
Oui. Est-ce qu'on va pas avoir une unique pensée?
On l'est déjà. On résiste, hein, mais elle y est déjà, la pensée unique. Hein,
oui et dans non, le monde. Mais... Oui, oui et son inverse.
On est saturé.
Non, ça changera rien.
Ça changera rien.
Non. Je pense que je pense que l'humain est capable de.
Oui, mais ça demande un effort. Et maintenant...
Ah bah ça, c'est toujours le gros problème.
Bah, voilà.
Hein. C'est la fainéantise intellectuelle, c'est le pire fléau qui existe. Bah oui,
bien sûr. On est d'accord. Bon, bah le temps passe très très vite.
Oui,
bah,
c'est le problème du temps.
Oui, c'est toujours
le problème. C'est le problème
mais
du
c'est
temps.
Vrai. Hein? Oui, oui. Bon. Alors, merci à Franck Hommage d'être venu nous présenter son recueil Entre le lait et l'or, publié aux éditions Kairos. Merci à Olivier Thirion d'être venu nous présenter son recueil L'espace d'un instant, suivi de Pangé ou l'impossible été, publié également aux éditions Kairos. Merci à John Bulit pour la lecture de sa nouvelle Les ennuis volent en escadrille. Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Et nous allons nous quitter avec Il y a du vent dehors et la pluie, interprété par Franck Hommage, qui a donc beaucoup d'autres talents cachés. Au revoir à tous et à bientôt.
Merci de nous avoir accueillis. Merci.